la volonté de vivre ce culte sur la crise, de pouvoir, sur les crises de foi, d'oser mettre des mots sur ce que la plupart d'entre nous vivons. Cette idée, elle n'est pas née comme ça, mais c'est Corinne qui est venue me voir et nous avons discuté et c'est elle qui a eu l'idée de pouvoir témoigner sur les crises de foi. Parce que c'est essentiel de comprendre, c'est pas parce que nous n'en parlons pas que nous ne les vivons pas. Et avant toute chose, je veux répéter notre but, la volonté pour ce culte, c'est que vous soyez encouragés. J'invite du coup Corinne Chollet à venir me rejoindre. Voilà, elle m'a approché, elle m'a proposé de témoigner sur son vécu. Et j'ai trouvé que c'était une si bonne idée que nous pouvions faire un culte entier là autour. Voilà. Donc, je crois que vous connaissez un peu Corinne, certains mieux que moi, certains peut-être moins bien que moi. Je vais te laisser te présenter et nous donner ton témoignage.
C'est bon. Bonjour à chacun. Je suis très heureuse, mais en même temps, bof, j'ai le stress. C'est mélangé avec de la joie, de la reconnaissance. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées de près, de loin. C'est vrai que il y a une semaine, j'étais vraiment plus sûre du tout de moi. Je me suis dit non, Corinne, ça va pas le faire. Je suis venue au culte dimanche passé. C'était Stéphanie. Vous vous rappelez, il y avait une belle barque ici avec les enfants. Elle a partagé sur la pêche miraculeuse. Elle a insisté sur deux points, l'appel de Dieu et le témoignage qu'elle encourageait. Donc, je devais continuer ma démarche. En fait, puisque vous me côtoyez à nouveau depuis quelques temps, je pensais que c'était nécessaire que je partage avec vous ce qui s'est passé ces dernières années de ma vie. J'ai malheureusement pas le don de pouvoir parler librement, d'aller à gauche, à droite. Il me faut mon support, mes petites feuilles de triche, donc pardonnez-moi. Je vais vous parler en fait de cœur à cœur, de mon parcours de ces dernières années, d'une expérience tout terrain, comme j'aime à l'appeler. Peut-être c'est bien que je me présente en quelques mots. C'est vrai que je suis un enfant de la tour de Villars, donc ça fait beaucoup d'années que j'ai côtoyé Villars. Je suis donc Cholet, née Gezer, ma maman qui est là aujourd'hui. Je suis maman de deux filles que vous connaissez certainement, Joanne et Valentine, Valentine qui a fait la louange ce matin. Je suis également grand-maman d'une petite fille Anaël, que vous avez certainement côtoyée, qui vient de temps en temps, qui m'accompagne. Et dans un mois et demi, j'aurai le privilège d'être à nouveau grand-maman par Valentine et Stéphane. Mes parents, mes beaux-parents sont issus de Villars. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai grandi à Villars, donc je suis passée par l'école du dimanche, j'ai fait tout mon cursus jusqu'au cathèque. Après j'ai pris différents engagements au sein de la communauté. Et un jour, avec Alain mon mari, on a décidé de vous quitter. En fait, en pensant découvrir une autre communauté, un autre dynamisme, un autre chose, quoi. Et ce que j'avais pas réalisé, que j'ai réalisé avec du recul, c'est qu'à ce moment-là, il s'installait déjà le trouble et des déceptions dans mon esprit. Mais partir, c'est une chose, mais se réintégrer dans une nouvelle église, les nouveaux contacts, eh ben en fait ça a été nettement plus difficile que ce que qu'on pensait. Et après plusieurs essais, on a baissé les bras. Et c'est là que une grosse remise en question de ma part s'est installée. En fait, tous les dimanches, qui ont suivi, en fait, était comme un jour de la semaine, il n'y avait aucune différence. Et à ce moment, la vie, elle a vraiment pris toute une autre direction. Chaque membre de ma famille a pris un chemin différent. Je suis passée du statut, si on peut dire, de meneuse au statut de moi toute seule. Est difficile de vivre cette conception de la famille, du couple. C'était pas vraiment ce que j'imaginais. Et c'est à cet instant que j'ai vraiment vécu une crise, pas une crise de foi, mais une crise de la foi, d'une violence assez incroyable. En fait, tous mes principes, ma foi, mes valeurs se sont entrechoqués, créant doute, questionnement, à un tel point que même l'héritage de ma foi a été remis en question. Un fort ressenti, sentiment de fausseté par beaucoup de théories, de principes, de préjugés, d'accusations, de jugements, qu'en fait ce n'était pas moi, ma foi, mais celle que je pratiquais au travers de ce qui m'avait été inculqué. D'ailleurs, Vincenzo, un autre thème que je te propose, c'est l'héritage. Déçue, j'ai été aussi déçue également par des actes pastoraux qui m'ont déstabilisée, déçue par Dieu, déçue d'être abandonnée. Je trouvais plus de cohérence entre ce que j'avais entendu, reçu et ce que je vivais. Et pourtant, j'avais vécu quand même des moments très forts avec Dieu et je comprenais pas que ça s'arrête ainsi, un silence, le silence de Dieu. Plus les jours passèrent, plus ma vie s'écoulait et plus je luttais contre ces sentiments. C'était tellement dur lorsqu'on voit autour de nous les gens réussir là où on pense avoir échoué. Tellement dur d'avoir des personnes proches de nous recevoir des paroles du Seigneur, des confirmations du Seigneur, de vivre une vie harmonieuse avec lui, d'avancer dans leur vie de foi. En fait, tout ce que je souhaitais pour moi, tout ce que j'aspirais, mais j'étais dans l'incapacité de vivre ça. Le découragement, la douleur et la jalousie ont pris de l'ampleur dans ma vie et ça, ça fait mal. Je me suis battue avec mes questions, avec ces sentiments, ces incertitudes, sans trouver de réponse. C'était impossible de connecter mon cœur, mon esprit. Pourtant, je sentais qu'un petit bout de foi était encore ancré au fond de moi. Mais je ne savais pas plus comment me reconnecter. Vous savez, cette sensation de se noyer, vous avez cet instinct de vouloir survivre, vous essayez de vous accrocher à tout ce qui... Enfin, vous essayez des choses, des moyens pour vous raccrocher et ça ne marche pas. J'aurais eu besoin de faire un reset, vous savez, sur les claviers d'ordinateur, on reset, on efface tout et on recommence. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'était comme une traversée du désert. Là, je vous raconte en fait en quelques lignes ce qui s'est passé, mais ça a duré plus de 10 ans. Donc, on sait qu'une traversée du désert, ben, c'est un temps d'épreuve, un temps de privation, de rencontre, et que ça peut durer de longues années. J'avais un petit livre dans ma bibliothèque que j'avais déjà lu, La crise de la foi, les dossiers vivent, peut-être certains l'ont déjà vu, dont le titre m'avait déjà interpellée. Je l'avais déjà lu, mais sans être plus interpellée que ça. Et un jour, je ne sais pas si vous recevez des fois les informations de la FRAE, il y avait une formation en ligne qui parlait, donc c'est la FRAE Collège, pour une session sur ce thème-là avec les orateurs, donc avec les auteurs, Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Et vous savez, si je vous dis que j'entendais cette petite voix, je pense que vous avez déjà entendu cette petite voix. Ou bien il y a que moi qui cette petite voix qui vous pousse, qui vous encourage, qui vous dit allez, vas-y, inscris-toi. Mon esprit un peu pessimiste, je me suis dit ben j'y vais, je m'inscris. Mais j'avais l'impression d'avoir, je veux dire, ça a duré tellement longtemps que j'avais l'impression que il n'y avait plus rien à faire. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et puis, c'était des mercredis soirs, mercredi après mercredi, il y avait un thème qui était apporté. Et pour Dieu, il y a vraiment un temps pour tout. Et ce temps était arrivé. Durant cette formation, j'ai eu une révélation, une compréhension de ce qui se passait dans ma vie. Et c'était tellement clair. Je ne peux pas faire un message sur tout ce livre, mais dans les grandes lignes, on nous parle de l'expérience d'Élie, de Pierre, donc c'est quand même pas n'importe qui comme personnage, mais on parle surtout de 5 phases de la vie spirituelle. La première, c'est la rencontre. Quand on est au début de la foi, on rend notre rencontre avec Dieu, notre découverte de quelque chose de vivant, une certaine fraîcheur, comme on dit, tout feu, tout flamme. La deuxième phase, c'est l'apprentissage, où il y a la connaissance biblique. La troisième phase, c'est le service. Chacun s'engage selon ses dons, selon ses capacités. Par contre, on nous rend aussi attentifs aux différents pièges. Ne vivre que par le service. Attention à l'équilibre dans le service, l'autosuffisance, ne pas être reconnu à sa juste valeur, l'épuisement, les burn-out. Et le point 4, la crise existentielle. Je vais m'arrêter un petit peu sur cette quatrième phase. Que représente-t-elle ? Une profonde remise en question de mon être, de ma manière de voir et de penser, nettement moins de certitudes, beaucoup plus de questions que de réponses. L'impression de voyager dans un pays inconnu, sans carte, sans GPS. Mes anciennes cartes ne correspondaient plus à la réalité de ce que je vivais. Le psychologique et le spirituel convergent, l'impression d'être en régression. Quand je vous disais au début de mon témoignage que mes principes, mes valeurs, mon héritage spirituel, tout s'écroulait, tout était remis en question. Donc cette phase 4 correspondait bien à ce que je vivais. Durant cette soirée, j'ai eu une révélation. J'ai vraiment réalisé que j'étais en fait restée sur cette phase. Et comme les orateurs l'expliquaient, on peut rester bloqué parfois longtemps. Parfois, on s'en sort seul. Parfois, on a besoin de personnes compétentes, des personnes professionnelles pour pouvoir s'en sortir. Mais en fait, pour moi, ça a été une réponse à ce mal-être que je vivais. Et comme je vous ai dit, il y avait 5 phases. La 5e phase, c'est la fécondité. En fait, cette phase, elle peut ressembler à la phase 3. Cependant, elle est différente, car nous avons été changés, nous avons accepté la vie, elle est incertaine, accepter ce qui arrive, lâcher prise, remettre entre les mains du Seigneur, abandonner avec confiance. Et en fait, pour passer de la phase 4 à la phase 5, il faut s'abandonner à Dieu, consentir, lâcher prise, redécouvrir Dieu autrement et laisser Dieu être Dieu. Laisser s'en aller l'image de nous-mêmes que nous avons construit et soigné, mais qui ne correspondait pas à la réalité. Et depuis ce jour, il y a une succession d'événements qui sont organisés par le Seigneur. C'est aussi une reconnexion entre le Seigneur et moi, tout naturellement, et j'ai été disposée à recevoir et à me laisser guider. Le Seigneur, il est incroyable, parce que lorsqu'il a un plan pour nous, il fera tout ce qu'il est pour son possible pour nous y conduire. Au début de mon témoignage, je vous disais que ça serait du pratique, du tout terrain. Alors voici quelques expériences concrètes. En fait, moi, la théorie, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de pratiquer, de vivre cette théorie. Un jour, j'ai reçu un SMS d'une amie. « Coucou Christine, est-ce que tu m'accompagnerais à la journée First Lady à Vevey ?» Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans ce que je viens de dire? Ben non, c'est moi, je m'appelle pas Christine, je m'appelle Corinne. Eh ben, j'ai vite réalisé qu'en fait, ce message ne m'était pas adressé. Et j'ai répondu à mon amie, qui avait un problème, que c'était pas pour moi. Puis elle m'a répondu tout simplement, c'était peut-être voulu que ce message devait être adressé. Alors, merci Evelyne. Et nous y sommes allés ensemble, toujours sans grande attente, parce que j'étais toujours encore sur la réserve, comme lorsque je me suis inscrite à la Frey College. Et cette journée, elle a été magnifique. Elle a été une nouvelle révélation, bienfaisante pour moi. Il y a eu des témoignages de femmes qui vivent leur foi au quotidien, malgré les épreuves qu'elles ont vécues, malgré les épreuves qu'elles vivaient actuellement. Et là, je me suis sentie inondée de sa présence. La main sur le cœur, nous avons pu prier, « Seigneur, je veux que tu me donnes la main. » J'ai senti une flamme qui se ravivait et j'ai pu recueillir ces paroles. « Dépose à mes pieds ta famille. Tu ne peux pas tout porter, tu ne peux pas choisir pour eux. C'est un choix personnel. Dépose ta jalousie, ta déception de penser que tu n'y es pas arrivé. » Et après cette journée, je suis rentrée à la maison, mais tellement, vous savez, ces petits-enfants qui sont tellement contents de ce qu'ils ont vécu durant la journée. Et puis, malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pu partager à la maison parce que, au vu du cheminement différent de chacun de mes proches, j'ai gardé ça pour moi et c'est vrai que ça a été difficile. Après quoi, il était clair qu'il fallait que je rejoigne une église. Ah, mais oui, mais laquelle? Où me veux-tu, Seigneur? Toujours cette petite voix. Retourne à la maison. La maison? Ça veut dire quoi? Tu veux que je retourne à Villars? Puis je vous avoue franchement que je lui ai dit, alors là, si c'est le cas, il va falloir que tu m'aides. Car c'est vraiment plus l'église que j'ai quittée il y a maintenant plus de 10 ans et ça va être difficile. Et plus les jours passaient, plus un amour grandissant pour cette communauté s'installait. Il y a eu le week-end d'église, et là je me suis dit, ça passe ou ça casse. Je m'inscris, j'y vais, et on verra ce qu'il en résultera. Et ce week-end a été encore une fois bienfaisant. Le Saint-Esprit m'a rempli d'une chaleur, d'une douceur, et depuis, me voilà parmi vous. J'ai réaliser qu'une chose est sûre, on peut pas vivre sa foi en solitaire, on a besoin des uns et des autres, besoin d'avoir une famille chrétienne. On a besoin de recevoir, de vivre, de se nourrir de la parole, de vivre des temps forts qui bousculent parfois. Besoin d'unir nos forces, nos dons pour avancer. J'ai besoin d'une foi qui se vit, qui se pratique au quotidien, qui donne envie. Et quand je vous parlais du reset, cette fois j'ai pu presser sur le reset, tout s'est effacé et je redémarre une nouvelle vie avec le Seigneur. Donc me voici de retour à la maison et suis à disposition pour les tâches que le Seigneur souhaite me confier. Voilà, il me semblait que c'était important de partager ceci avec vous, de partager tout simplement l'action du Christ dans ma vie. Et Dieu, il utilise des personnes pour nous amener là où il veut. Il utilise des paroles de frères et sœurs, des paroles bibliques. Nous avons besoin de vivre ces moments qui parfois secouent. Attention à nos zones de confort, nos endormissements. Donc unissons nos forces, nos dons pour avancer. Soyons une église qui vit et pratiquons la foi. Une église qui vit une relation avec Dieu. Je termine, merci encore pour l'accueil chaleureux de chacun. Merci Jocelyne pour tes paroles qui ont résonné dans mon cœur et qui ont fait partie des confirmations qui allaient dans le sens de mon retour. Tu m'as dit « Bon retour à la maison, tu es chez toi, ton fauteuil t'attendait. Viens en toute liberté. » Si vous avez à cœur de prier pour l'un ou l'autre personne de votre entourage, je vous encourage à le faire. Faites-le, priez et persévérez. Merci pour vos prières. Vous avez des femmes dans votre assemblée de prières. Merci Esther. Vous avez des personnes qui ont des dons multiples. Utilisez le don d'écriture. Merci Jean-Luc pour un de tes éditos dans le journal de l'Église. Et je terminerai avec ces paroles. Ésaïe nous rappelle avec une puissante actualité que si nous nous éloignons de Dieu, son amour ne s'éloignera pas de nous.
Merci beaucoup Corinne. Merci beaucoup pour ce... Je vais faire tomber ça. Pour ce témoignage authentique, vrai. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur nous donne son espérance. Mais nous, parfois, nous passons par des déserts. Et j'aimerais prier pour ce retour. Est-ce que je peux, juste avant que... Seigneur, je veux te prier pour Corinne, je veux te prier pour les Corinnes aussi au milieu de nous, te prier que tu puisses être ce Dieu qui se trouve au bout des déserts. Seigneur, je veux te prier que toutes celles et ceux qui se trouvent dans un désert puissent le plus rapidement possible, au bon moment, Seigneur, sortir du désert. Et Seigneur, que voilà, tu puisses être celui qui accueille Corinne à la maison. Tu es notre Père céleste qui nous accueille. Amen. Nous lisons dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, un village qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Et si cette phrase paraissait intelligente, c'est parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Non, c'est par cette phrase que Jean Calvin débute son instruction de la religion chrétienne. Son premier point est que la connaissance de Dieu et de nous-mêmes sont choses conjointes. Ou dans une traduction en vieux français, que la connaissance de Dieu nous amène à nous connaître nous-mêmes. Ma connaissance de Dieu joue un rôle essentiel dans la façon dont je me connais moi. La façon dont je conçois Dieu imprime aussi très fortement sur comment je me conçois moi-même. Et Calvin va même plus loin, il dit, bien que ces deux connaissances soient liées, il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. Et donc, lorsque je passe par une crise de foi, celle-ci entraîne également une crise existentielle. Et lorsque je passe par une crise existentielle, lorsque je me remets en question, alors forcément aussi, je remets Dieu en question. Et je veux le dire d'emblée et tout de suite, la crise de foi est une opportunité pour transformer, pour redécouvrir Dieu et me redécouvrir d'une façon différente. Je lisais un livre sur ces différences entre nos attentes et notre vécu. Et c'est intéressant de souligner que ces crises de foi, les germes qui nous amènent là sont lorsque mes croyances profondes entre en conflit avec mon vécu. Et l'auteur du livre met en avant, juste quelqu'un qui peut aller prendre soin d'Yvonne qui est en train de tousser. Merci. Il met en avant trois éléments par rapport, qui sont les plus récurrents, qui reviennent le plus souvent, qui se différencient le plus souvent entre ce que nous croyons est-ce que nous vivons. Le premier, c'est l'amour de Dieu. C'est le fait de croire que Dieu m'aime et dans le vécu, de ne pas le vivre. C'est-à-dire qu'on entend Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'aime, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais dans les faits, dans la réalité, dans mon vécu, j'ai l'impression de ne pas être aimé par Dieu. Et le problème avec cet élément, c'est que il n'y a pas vraiment besoin de convaincre intellectuellement, mais il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du vécu. Le deuxième élément, c'est la présence de Dieu. Comment se fait-il que Jésus annonce qu'il est toujours présent à mes côtés, que l'Esprit est toujours là à nos côtés, et pourtant, je me sens seul? Dieu est toujours avec moi et pourtant je vis la solitude. Et le troisième, c'est sur la croissance spirituelle, c'est cette impression de ne pas grandir, de stagner spirituellement. Cette impression que tout le monde grandit, tout le monde croit, et pourtant, moi, je stagne. Et là, c'est intéressant, l'auteur mettait en avant que généralement, quand on lit ces auteurs du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, ces figures de la Bible, on les réunit toutes, on en fait une synthèse et on crée ce qu'on appelle le super disciple et on se compare à ce super disciple et généralement, on n'arrive pas à rivaliser. Et donc, comme on n'arrive pas à rivaliser avec ce super disciple, que faisons-nous ? Nous essayons plus, encore mieux. Nous faisons encore plus d'efforts, mais cela ne marche pas. Élie aussi, le grand prophète Élie, a passé par une crise existentielle. Élie est un prophète important de l'Ancien Testament. Il incarne la figure même du prophète. Il l'incarne à tel point que lorsque Malachi prophétise la pré-venue du Christ, donc la venue de Jean-Baptiste, les derniers versets de l'Ancien Testament, il écrit « Je vous enverrai le prophète Élie avant qu'elle n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Et son récit est palpitant. Élie annonce une sécheresse et il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Et au milieu de cette sécheresse, au milieu de cette pénurie, Élie est nourri miraculeusement par des corbeaux. Et lorsque la source d'eau se tarit, il va à Sarepta, et là, il est nourri par une veuve qui ne possède presque rien et dont la farine et l'huile vont se multiplier miraculeusement. Ensuite, Élie prie. Il prie pour la résurrection du fils de cette veuve, et ce fils ressuscite. Élie annonce la fin de la sécheresse, et la sécheresse s'arrête. Sur le mont Carmel, Élie affronte 400 prophètes de Baal, et c'est sur son autel que le feu divin descend. Il poursuit, il affronte et il extermine ces 400 prophètes. La vie d'Élie est palpitante. Elle est palpitante jusqu'au jour où il est menacé par Jézabel. Et là, c'est vrai qu'on se pose tous, en tout cas moi, cette question. Comment se fait-il qu'un tel prophète puisse être déstabilisé par une simple menace? Le texte nous dit « Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait ce que tu leur as fait. » Après tous ces événements spectaculaires, après toutes ces réussites, après cette grande victoire, Élie est déstabilisé par une petite menace. Comment se fait-il? Le Nouveau Testament, l'épître de Jacques, nous dit cette chose au chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné la pluie. Élie était un homme de la même nature que nous. Malgré toutes ses réussites, malgré toutes ses grandes victoires, Élie possède la même nature que nous. Alors, Jacques le prend comme un encouragement. C'est-à-dire que si un homme de la même nature que nous prie et le ciel arrête de donner l'eau, nous aussi, partageant cette nature, notre prière est efficace. Et en même temps, ça veut aussi dire que Élie n'est pas un super-héros, n'est un super-prophète. Il n'est pas un super-disciple à qui il n'arrive jamais de douter, à qui n'a jamais peur. De plus, moi, cette vie d'Élie, elle me pose souvent beaucoup de questions, quoi. Je me demande toujours, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il est nourri par des corbeaux, il a l'eau à gogo d'un torrent, et on ne nous dit pas ce qu'il fait, quoi. Je sais pas, il est assis au bord de l'eau, puis il construit des petits barrages, il jette des petits cailloux comme ça dans l'eau en attendant la nourriture. Il est nourri par une veuve, et on ne nous dit même pas qu'il l'aurait aidé à cuisiner ou quoi que ce soit, non? Bien pire encore, on apprend qu'il a un serviteur, parce que Il lâche son serviteur au moment de fuir. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que pouvait bien faire Élie. Non seulement je me demande qu'est-ce qu'il peut bien faire, mais je réalise qu'il a un problème dans ce qu'on peut appeler la théorie de la victoire. La théorie de la victoire, lorsque je suis confronté à un conflit, à une guerre, eh bien, il faut théoriser la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner? À quel moment j'ai gagné? À quel moment j'ai perdu? Et lorsqu'on voit Élie, on voit que cette théorie de la victoire est quand même un peu naïve. Elle est naïve parce que il gagne sur ce mont Carmel, il poursuit les prophètes de Baal, il les extermine tous, et il s'attend à ce que la reine Jézabel, j'imagine, se repente. Il s'imagine que sur ce mont Carmel, c'est un peu ce mythe de la victoire, de la bataille décisive. Il suffit de gagner ce combat sur le mont Carmel et tout est beau, tout est rose, tout le monde va devenir gentil et tout le monde se mettra à écouter la parole de l'Éternel. On est tous des fois un peu assaillis par cette bataille décisive. Moi, je dois vous avouer qu'en tant que pasteur, c'est un peu la prédication décisive. Vous savez, je rêve un jour de prêcher une prédication et que tout le monde soit transformé et que par la puissance de l'esprit quand même, hein, mais voilà que tout le monde devienne des super disciples. On peut avoir comme ça des éléments. Moi, je fais pas de louange, mais j'imagine des fois on peut se dire, mais cette louange décisive, je vais prendre ce chant au bon endroit, à la bonne tonalité, avec les bons mots. Et tout d'un coup, tout le monde dans l'église va se mettre à adorer Dieu de tout son cœur. Les anges vont se mettre à chanter. Et en fait, nous ne nous arrêterons plus de chanter. Cette idée de la prière décisive. J'ai un problème. La grosse partie du problème, c'est moi. Mais c'est tellement réconfortant de pouvoir prier une fois, une petite prière, et tous mes problèmes s'en vont. Généralement, sans vouloir vous la retirer, parce que Dieu peut agir comme ça, généralement, Dieu n'agit pas au travers de ces batailles décisives. Et Dieu ici nous met aussi en garde face à la tentation de la destruction. Lorsque tout va pas, il suffit pas d'exterminer les 400 prophètes. Vous savez, des fois, quand en fonction des situations, vous avez toujours un peu ce discours de bistrot où, il faut tous les liquider. Non. Au milieu de sa grotte, alors que Élie fuit, Élie va prendre conscience qu'il n'est pas un super héros. Et il va prendre conscience au moment de recevoir cette menace. Qu'est-ce donc qui s'est passé dans la tête d'Élie? Alors il y a plein de spéculations, nous n'en savons rien. Et c'est ça qui est intéressant avec la Bible, c'est que la Bible n'invente pas ou ne présuppose pas les raisons intérieures des gens. C'est pas comme un roman où on expliquerait Charlotte était un peu triste, donc non. La Bible n'invente pas, et de ce fait, elle nous laisse aussi, elle se présente comme un miroir. Et ce miroir, c'est lorsque je lis cette fuite d'Élie, lorsque je lis ce récit où Élie se met à fuir, qu'est-ce qu'il me vient à l'esprit? Quelles sont les raisons? Et peut-être que ce que nous imaginons être les raisons d'Élie de fuir sont peut-être nos raisons à nous. Au milieu de la grotte, lorsque Dieu vient à la recherche d'Élie, À deux reprises, Dieu lui pose la même question, « Que fais-tu ici ?» À deux reprises, Élie donne la même réponse, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel et je suis resté, moi, seul, et il cherche à m'enlever la vie. » Après quoi, Dieu donne deux actions à Élie. La première, sortir au bon moment. Sortir au moment où il entendra la présence de Dieu. Et deuxièmement, partir dans le nord pour oindre Hazaël, Jéhu et Élisée. Et on a dans ce récit où la foudre, le tremblement de terre, la tempête frappe la montagne, ce murmure doux et léger. Et quand Élie entend ce murmure doux et léger, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. De tous ces événements spectaculaires, de ces grands miracles, Élie est amené à une compréhension différente de Dieu, à une compréhension intime. Là où la foudre, là où les corbeaux, le spectaculaire prenaient place, Dieu s'adresse doucement. Et nous aussi, Dieu souhaite que nous le redécouvrions. Dieu veut que nous sortions de nos illusions. Et en effet, Élie peut-être est dans l'illusion. Il est dans l'illusion car il répond « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres ». N'est-ce pas là une occasion d'orgueil ? Et à deux reprises, il va répondre à Dieu « Je suis resté, moi, seul ». Et Dieu lui répondra « Non, 7000 hommes sont restés fidèles. Non, Élie, tu n'es pas le dernier rempart contre l'oppression. » En demandant à Élie de partir au nord pour oindre Hazaël, Jésus et Élisée, Dieu signifie à Élie qu'il n'est pas le seul à son service. Élie n'est pas le dernier Gaulois. Élie n'est pas indispensable à l'œuvre de Dieu. Non seulement il n'est pas indispensable, mais Dieu va utiliser d'autres personnes pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et aussi, ça montre qu'Élie a pris le chemin dans la mauvaise direction. Dieu lui demande de partir au nord, et la montagne de Dieu, l'Horeb, là où il se trouve, pour y arriver, il a fait le chemin en direction du sud. Élie est parti dans la mauvaise direction. Élie n'est pas un super-héros. Et donc on voit que ce Élie qui avait l'impression d'être un super-héros, d'être l'homme de la situation, d'être le grand prophète, il se retrouve face à cette menace. Il perd totalement confiance en lui et il fuit. Et cette perte de confiance l'amène à douter de lui. À combien plus forte raison, lui, un grand homme, si il lui arrive à lui de passer par ces temps de détresse, ces temps de désert, est-il possible que nous aussi, nous traversions des déserts ? Alors, ce sera peut-être des raisons différentes que celles qui ont motivé Élie. Et pourtant, je veux vous adresser cette espérance. Au travers de cette crise, Élie a appris à connaître Dieu différemment. Et cette route, ce chemin sur lequel Dieu envoie Élie, n'est pas instantané, il n'y a pas de raccourci, c'est un processus. C'est un processus, mais Dieu conduit toutes choses. Je vous invite à... Et donc, en reprenant ce qui a été témoigné par Corinne, en reprenant cette espérance qui nous est offerte par Élie et par Dieu, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Qu'on puisse tout d'abord prier les uns pour les autres, qu'on puisse prier pour nos proches qui traversent ces déserts, mais aussi prier pour vous, pour toi. Et j'aimerais, dans le temps qui suit, pendant que nous prendrons un avant-dernier chant de louange, t'inviter à t'avancer pour qu'on puisse prier pour toi. Alors on va faire des groupes. Il va y avoir un groupe à gauche et un groupe à droite. Et celles et ceux qui ressentent ce besoin de recevoir la prière, sentez-vous les bienvenus, sentez-vous accueillis par Dieu et nous prierons pour vous. Nous prierons que Dieu se révèle à toi d'une façon nouvelle, que Dieu te renouvelle, que Dieu nous renouvelle. Voilà que... Et je peux...